On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux symptômes dominants, celles qui s'exercent jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et que le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales est une mécanique impitoyable qui peut produire à l'électorat.
Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Canu, Radio Rebelle sur le 102.2 ou sur radiocanu.org. Vous écoutez l'émission Angle Mort, émission de critique sociale. De plus en plus, mais ça n'a pas forcément duré, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus une émission de science sociale critique, on va dire. Assuré pour l'instant de manière très très irrégulière, on s'en excuse à nouveau, hein, mais là on commence à arriver à retrouver un petit peu un rythme une fois toutes les deux semaines au moins, enfin non, au mieux plutôt, mais voilà, c'est toujours ça. Au menu de ce soir, en fait, une émission autour d'un livre qui est paru il y a peu aux éditions Agone, autour de donc un livre de Beverly Skeggs. Livre qui s'intitule Des femmes respectables, classe et genre en milieu populaire. Donc qui était paru d'abord en anglais en 1997 et qui est paru là en janvier 2015 en français. Donc l'occasion peut-être avant de commencer de renvoyer nous à une émission qu'on avait fait le 10 mars 2013 qu'on peut retrouver sur notre blog, hein, le blog de l'émission Angle Mort, hébergé par le site de Radio Canu, qui portait sur la domination masculine et qui causait vite fait bien fait de la construction sociale et historique des différences et des inégalités entre les sexes, des mécanismes des rapports de domination et de la reproduction dans le temps de ceci. Voilà, une émission dans laquelle aussi on avait pas mal d'extraits d'un film de Patrick Jean intitulé La domination masculine. Et donc ce soir c'est plutôt un livre plus spécialisé qui ne traite pas d'ailleurs que de la question des rapports hommes-femmes, puisqu'elle croise la question rapport hommes-femmes et rapport de domination de classe. Un livre traduit de l'anglais donc qui repose sur une enquête ethnographique auprès de à peu près 80 jeunes ouvrières anglaises qui s'orientent à l'époque, donc ça doit dater des années 90, qui s'orientaient vers les métiers du care. Donc tout ce qui est accompagnement des soins aux personnes dépendantes, etc. Et donc qui s'intéressait à leur subjectivité, à leur sexualité, aux visions du monde social de ces femmes de classe populaire, entre donc leur formation scolaire et qui les suivait. C'est pour ça qu'on parle de longitudinal quand c'est ces enquêtes comme ça qu'on va suivre des personnes sur le temps long. Donc qui les suivait dans leur entrée en emploi, dans leur fondation d'une nouvelle famille, etc. Donc l'auteur de ce livre, Beverly Skeggs, est sociologue et chercheuse en études de genre et par ailleurs féministe. Donc bon, je le dis tout de suite, c'est un livre moi que je n'ai pas encore lu. Parce que sa traduction française est parue il y a peu, hein. Mais bon, le thème m'a semblé suffisamment intéressant quand même pour essayer de trouver des choses qu'on aurait déjà autour de ce livre. Et en l'occurrence, j'ai trouvé une vidéo d'une personne qui présente ce livre. Cette personne qui est Anne-Marie Devreux, qui est en fait la personne qui a réalisé la préface de l'édition française donc de ce livre « Des femmes respectables ». Qui est elle-même sociologue, présentation qui avait lieu à l'occasion de journées d'études intitulées Les classes sociales en Europe, qui ont eu lieu en décembre 2014. Voilà, donc je vais diffuser en fait une partie de cette présentation qui permet de resituer un peu le parcours de l'auteur, le contexte historique de l'enquête. Sur la présentation des idées mêmes du livre, c'est parfois un peu flou, je trouve. Moi, j'ai du mal à saisir de quoi il était question, mais ça donne déjà une petite idée. Et voilà, mais pour commencer, donc Angle Mort, c'est aussi des musiques alternatives. Donc on va commencer par un premier titre de musique avec, eh bien je vous ai calé, si je me suis pas trompé, House Rotten avec The Second Rape. Radio Canu.
Just
Elle est toujours Radio Canu, donc, avec une présentation par Anne-Marie Devreux du livre de Beverly Cakes, Des femmes respectables, paru chez Agone en janvier 2015.
Alors, la recherche dont il est question dans le livre dont nous parlons aujourd'hui a commencé au début des années 80 et dans le cadre d'une thèse. Et je vais préciser un peu le parcours qui a amené Beverly Cakes à faire le choix de ce sujet, parce que ça donne des indications sur sa propre position, sur sa construction, sur ses choix de catégories d'analyse. En fait, elle se trouve à un moment en nécessité de compléter sa paye insuffisante d'enseignante, ça arrive à des tas de gens, vous voyez, y compris de l'autre côté de la Manche. Et elle donne des cours dans un lycée polyvalent qu'on qualifie en anglais, en Angleterre, de vocational, c'est-à-dire, en fait, ce qui veut dire professionnel. Ça veut pas dire professionnel, mais ça se traduit en professionnel. Et c'est la voie du Further College, propre au système éducatif britannique, qui est une voie parallèle à la voie universitaire. Alors, dans ces Further College, elle enseigne auprès de jeunes filles dans des sections d'enseignement d'aide à la personne. Alors, aide à la personne, ça s'est pas toujours appelé comme ça, mais si je vous parle d'enseignement ménager, d'enseignement familial, d'enseignement d'économie sociale et familiale, etc., vous voyez, c'est dans cette lignée-là. Mais maintenant, on parlera de caring, hein, ou de care, et de caring courses. Son enquête va durer 12 ans, et il s'agit d'une enquête ethnographique, je vais vous dire pourquoi on peut la qualifier ainsi tout à l'heure. Et elle travaille au fil des années de son enquête. Ces sections de formation au travail de care se détaillent au fur et à mesure de l'avancée, y compris des textes réglementaires, en options. Et donc, on y trouve des options services médicaux, travail social ou encore option aide à la communauté, community care, qui est un euphémisme, en fait, pour parler d'une formation aux fonctions d'aide familiale dans un pays qui, comme en France, met en place un dispositif d'encadrement et de formation à la fonction familiale assumée par les femmes qui procurent des soins, donc du travail de care, aux personnes dépendantes de leur propre famille. Donc, même ces femmes-là, qui font un travail qu'elles connaissent depuis l'enfance, quasiment, on les forme et on les encadre. Alors, pour situer le niveau des diplômes des élèves dont on va parler, ça se situe entre le O-level, c'est-à-dire le niveau brevet, à peu près, hein, et le A-level, c'est-à-dire le niveau bac. Hein. Donc, et ça, c'est, en fait, il y a une espèce de hiérarchie de niveau entre les options dont j'ai parlé. Alors, au total, l'enquête va concerner 83 jeunes femmes, petit à petit. Hein. Au début de l'enquête, les jeunes filles ont 16 ans et elles sont donc élèves de la classe où enseigne Beverly Cakes, qui, rappelle-t-elle, n'a au début de l'enquête que 4 ou 5 ans de plus que ses élèves à ce moment-là. Hein. Et elle-même se sent très concernée par la trajectoire de ses élèves. Elle est en effet issue d'une famille populaire. Sa mère était employée dans les cantines scolaires et son père employé de banque. Donc elle est dans une fraction haute des familles populaires britanniques de l'époque. Et elle raconte qu'elle a elle-même emprunté cette voie des caring courses quand elle avait 16 ans. Et parce que ses études secondaires ne marchaient pas très bien et elle avait donc échoué dans les filières générales, donc elle se retrouve elle-même à un moment, avant d'y enseigner évidemment, au début de ce parcours. Et en fait, quand elle les côtoie dans ses cours, c'est en les côtoyant et en voyant leur pratique qui était un peu dissonante par rapport à ses propres pratique, à ses propres conceptions du monde. Elle assiste à une mise en scène constante de la féminité chez ces jeunes filles. Et elle s'interroge sur le rapport à l'avenir et surtout le rapport qu'elles entretiennent au groupe social qui est le leur, qui est donc celui des classes populaires, de la classe ouvrière britannique. Alors, en passant à l'université, elle découvre, elle le raconte comme ça, hein, elle découvre la sociologie, je la cite, cette discipline qui l'aidait à comprendre le contexte social et économique de la Grande-Bretagne des années 80 dans laquelle elle vivait. Et dans son parcours intellectuel à l'université, ça compte aussi pour la construction dont je vais parler après, elle rencontre le marxisme, Althusser, Gramsci, Bourdieu et les Cultural Studies du Center for Contemporary Cultural Studies, donc le CCS, bien connu parce qu'il a été fondé par Richard Hogarth, dont on a parlé tout à l'heure, et dirigé par Stuart Hall. Alors, quelques années avant le début de son enquête, est paru le livre de Paul Willis, dont on a aussi parlé, je crois, dans la journée, Learning to Labor, traduit chez Agon, sous le titre L'école des ouvriers, et qui inspire beaucoup Skeggs, mais qui lui inspire aussi une critique. Paul Willis, dit-elle, a suivi des garçons, ces fameux lads dont on parle, mais pas les filles, les lasses dont Skeggs va, elle, parler longuement. Et elle constate que si Willis n'est pas aveugle à la question des différences de sexe, par exemple, il aborde la façon dont les jeunes filles sont assignées par les lads à des positions sexuées très réductrices, voire sexistes, Willis ne prend pas en compte le fait que filles et garçons n'ont pas les mêmes ressources pour construire leur identité et leur rapport à l'école, ni les mêmes possibilités d'investir leur groupe social d'appartenance, c'est-à-dire la classe ouvrière, pour s'y forger une position valorisable. Donc en fait, dès le départ, elle veut faire compléter la démarche de Willis par une enquête spécifiquement sur les filles. Alors, la problématique de la valeur des positions sociales assignées et détenues par les individus est présente dans le travail de Skeggs dès le début, mais c'est par la suite, au fil de sa construction, donc je vous rappelle que cette enquête dure 12 ans, et d'ailleurs son ouvrage paraît 5 ans après la fin de l'enquête, donc vous voyez qu'entre le début de l'enquête et la parution de l'ouvrage, il y a largement le temps de faire mûrir ces catégories et de faire des choix et de les justifier. Et au fil de sa recherche sur les jeunes filles en formation, donc au travail d'aide à la personne, elle va enrichir sa réflexion sur la valeur, donc la valeur des personnes, c'est son une interrogation principale, par une décomposition de ce qu'on peut considérer comme des vecteurs subjectifs grâce auxquels les contours de cette valeur sont définis. Et d'une certaine façon, ce sont les relations théoriques entre ces vecteurs, donc on va parler d'expérience, de féminité, de sexualité et de respectabilité. Elle organise l'écriture de son ouvrage selon ces catégories d'analyse. Alors, je vais y revenir, mais pour compléter la mise en contexte du début de la recherche, je dois ajouter que, dès le début de son parcours, Skeggs entremêle les travaux empiriques et les réflexions d'épistémologie critique, comme je l'ai dit, et elle participe à un groupe d'études des femmes du Center for Contemporary Cultural Studies. Et ce groupe de femmes publie dès 1978, donc même avant le début de l'enquête, un ouvrage qui s'intitule « Women Take Issue, Aspects of Women's Subordination ». C'est un ouvrage collectif qui pointe le fait que les tenants du courant des Cultural Studies britanniques ont certes introduit l'idée d'une culture propre aux classes populaires, mais ils sont restés centrés sur les seuls hommes, ouvriers et blancs. Ce groupe d'études des femmes du CCCS va souligner dans cet ouvrage l'invisibilité des femmes dans les travaux du centre et va inaugurer ainsi un courant qu'on appelle les féministes culturelles studies. Elles introduisent, ces femmes introduisent l'idée issue du mouvement féministe selon laquelle le privé est politique, ce qui nécessite d'élargir le champ d'études traditionnel des cultural studies qui portent donc sur l'étude des sous-cultures, le cinéma, les médias, etc. Il faut élargir ce domaine aux questions relatives à la famille et à la sexualité. L'ethnographie qu'entame Skeggs auprès de ses classes d'élèves en formation à l'aide à la personne et d'une certaine façon, on peut la qualifier d'ethnographie at home, c'est-à-dire d'ethnographie chez soi, puisqu'elle est à la fois native de la région d'enquête que je vais préciser maintenant et du groupe social observé. Alors, cette enquête est située dans un bassin ouvrier du nord-ouest de l'Angleterre où l'emploi féminin est une tradition. Tradition qui subit néanmoins de plein fouet la crise de l'emploi. Par exemple, entre 76 et 82, donc au tournant des années 80 où démarre l'enquête, le chômage des jeunes femmes, le chômage des jeunes femmes, oui, est multiplié par 10. Et les effectifs d'emploi ouvriers et employés de la région sont diminués de moitié. Donc ça vous donne le contexte dans lequel ces jeunes filles suivent ces cours de formation d'aide à la personne. On ajoute à ça les années du thatchérisme qui sont notamment marquées par un discours très familialiste qui met la figure de la mère sur le devant de la scène. On insiste notamment à la mise sur pied de lois qui vont actualiser la tradition venue du 19e siècle d'un enseignement familialiste destiné à civiliser les femmes des classes populaires pour en faire les gardiennes de l'ordre familial dans le monde ouvrier. Il s'agit d'encourager le sens et le goût des devoirs ménagers chez les jeunes filles afin d'améliorer selon les époques, d'abord l'hygiène au sein des familles ouvrières, puis la prise en charge gratuite des personnes dépendantes, des enfants, des personnes âgées, des invalides. Mais il y a là une continuité, en fait, entre l'hygiénisme et le care. Parfois, on opère en incitant les jeunes filles à quitter l'emploi salarié, mais parfois en les préparant à remplir des fonctions d'aide rémunérée, mais d'être rémunérés toujours dans la précarité et la dévalorisation économique de ces fonctions. Et toujours à travers la transmission d'un idéal domestique issu de la classe moyenne et de la bourgeoisie. Les années Thatcher, c'est aussi le temps des attaques idéologiques contre les mères seules, les mères isolées, qui sont une nouvelle catégorie de femmes dangereuses. Femmes de classe populaire dangereuse. Il s'agit donc de susciter chez les jeunes filles des classes populaires des dispositions à la position d'aide à la personne, des dispositions au dévouement et donc à l'éventuelle gratuité du travail accompli. Pendant 3 ans, Skeggs est en complète immersion et voit ses enquêtés tous les jours à l'occasion de ses enseignements, à l'occasion de discussions informelles ou d'entretiens de groupes ou individuels. Et très vite, elle perçoit le paradoxe qu'il y a pour ces jeunes femmes à se former à l'école pour des tâches qu'elles ont déjà appris à effectuer au sein des familles. La formation, qui doit donc être validée par un diplôme et valider ainsi des compétences pratiques déjà acquises, en fait, va porter plus sur les normes d'effectuation de ces tâches que les pratiques de ces tâches. Donc, transmission par l'école de normes de propreté, de normes de bienséance, d'attitude de réserve dans l'expression des sentiments. Mais au cours du cursus, les jeunes filles sont envoyées en stage. Alors ça peut être à l'hôpital, en centre pour handicapés, en maison de retraite, en crèche. Et c'est au cours de ces stages où elles sont sous des regards extérieurs à leur famille et à leur lieu de formation qu'elles prennent conscience qu'au fond, elles rendent service, qu'elles ont une utilité sociale et qu'elles pourraient être pour cela reconnues. Elles apprennent aussi à évaluer elles-mêmes les autres à travers des grilles de critères d'évaluation du travail du CARE. Et c'est à travers ces évaluations du travail d'autres femmes qu'elles sont censées adhérer elles-mêmes aux normes de responsabilité et de respectabilité. Alors, Skeggs insiste beaucoup sur le fait que la respectabilité, comme catégorie d'analyse de son enquête, de ses matériaux, n'est apparue comme catégorie explicative que tardivement dans le processus de la recherche. Je vais y revenir, mais vous voyez que dans le titre, cette notion de respectabilité est tout à fait centrale. Mais je dois, avant ça, pour développer davantage sur la respectabilité, dire quelles autres catégories d'analyse majeures elle mobilise, un peu en filiation avec les travaux des cultural studies, mais aussi avec les recherches féministes des années 80. Donc il s'agit des catégories de l'expérience et de la subjectivité. Je vais être rapide sur ces questions, mais on est obligé de passer par là pour comprendre ce qu'elle fait de la respectabilité. Skeggs mobilise la catégorie de l'expérience pour, dit-elle, comprendre comment les femmes habitent la catégorie de femmes qui comporte une dimension de classe et une dimension de race, ajoute-t-elle, mais elle ne développe pas. Et donc, comment cette catégorie s'élabore à travers des relations de pouvoir et de lutte. Comment la catégorie de femmes s'élabore pour ces femmes des classes populaires à travers des relations de pouvoir et des luttes. Quant à la subjectivité, elle reprend à son compte la définition de Teresa de Lerotis, que je cite, « La subjectivité est une construction continue, elle est le produit d'une interaction » que j'appelle l'expérience, et découle de notre engagement personnel, à chacun d'entre nous acteurs sociaux, notre engagement personnel et subjectif dans les pratiques, les discours et les institutions qui dotent de sens, donc de valeur et de signification et d'affect, les événements de notre vie. Quant à l'idée de respectabilité, elle a donc surgi de l'analyse des entretiens. Elle n'était pas là au départ de la construction de Skeggs. Et elle surgit de l'analyse des entretiens et de certains discours des femmes de l'enquête, notamment lorsque les femmes qu'elle a suivies, donc pour certaines au fil de 12 années, commencent à prendre de l'âge et à passer à d'autres étapes de leur trajectoire. Et c'est là que la notion de respectabilité peut surgir. Peut-être aussi est-ce au caractère, c'est donc au caractère longitudinal de l'enquête que Skeggs doit cette émergence de cette catégorie qui devient centrale pour elle. La respectabilité est apparue comme un critère de valeur sociale des femmes, une norme mais aussi une contrainte au cours de leur trajectoire. Je cite Skeggs. Cette notion de respectabilité s'est révélée centrale pour rendre compte des processus d'identification, de dissimulation de son appartenance de classe et de résistance répétée à appartenir à aux classes populaires. Donc elle est apparue comme le moyen de faire tenir ensemble des thèmes qui surgissaient des entretiens, la question de classe, la question du genre, la question des sexualités, qui se conditionnent sans cesse mutuellement. Et surtout, elle fait écho à la gestion sociale et étatique des femmes des classes populaires à travers l'histoire de l'Angleterre depuis le XIXe siècle. En effet, en regard de la pathologisation des femmes des classes populaires et du soupçon qui pèse sur elles de dangerosité et d'hypersexualisation, les classes supérieures ont longuement prescrit la norme bourgeoise de respectabilité pour les femmes, par exemple à travers les personnages féminins de la littérature de l'époque victorienne. Là, on a un énorme éventail de figures féminines hautement respectables et de figures féminines pas du tout respectables d'ailleurs. Les unes ne peuvent aller qu'avec les autres. L'idéal domestique est l'un des critères de cette respectabilité et soutient l'ordre social de la hiérarchie des classes. au cours de leur apprentissage et de leur stage, puis plus tard de leur vie conjugale et de leur activité de caring, les femmes de l'enquête tentent d'endosser l'habit de femmes respectables et responsables. Et à tel point que c'est cette responsabilité, cette notion de responsabilité de prise en charge des autres, qui va leur permettre de se démarquer à contrario des femmes des classes, de la classe bourgeoise, à laquelle elles ne peuvent pas appartenir. Et là, pour Skeggs, il est important de dire que l'appartenance aux classes populaires, pour Skeggs, se définit d'abord par l'exclusion et la privation, par ce à quoi les hommes et les femmes ne peuvent prétendre en vertu des critères imposés par les dominants. Et mais si ces femmes ne veulent pas appartenir à la classe, ne peuvent pas appartenir à la bourgeoisie, elles ne veulent pas non plus appartenir à la bourgeoisie. En retournant le pouvoir de définir ce qu'est une personne responsable, les femmes de l'enquête critiquent les femmes de la bourgeoisie qui, par exemple, laissent leurs enfants chez d'autres femmes. Elles les critiquent aussi avec ironie sur leur prétention à paraître plus dignes ou plus respectables. Elles les critiquent sur leur apparence. Et donc, elles, dans ce moment de résistance, en fait, elles s'attribuent une supériorité morale sur les femmes de la bourgeoisie. La responsabilité est une compétence monnayable. Il faut donc qu'elles apparaissent dévouées et employables. Mais en fait, elles vont être employées par ces femmes qui définissent la norme domestique, mais elles vont être employées ou pas employées. C'est-à-dire que là, le rapport de force est total et leurs compétences sont sans arrêt discutées par les employeurs. Par exemple, il faut être à la fois affectueuse, affective, mais pas trop. Enfin, c'est toujours selon les critères des employeuses qu'elles sont évaluées, évidemment. En fait, elle montre que cette respectabilité se construit autour de la notion de la définition de la féminité, la bonne féminité, qui n'est pas celle des classes populaires. Mais à travers le Caire, les femmes vont perdre en féminité ce qu'elles pourraient gagner ce qu'elles peuvent gagner en responsabilité et en autorité. Par exemple, elles ont parfois des travaux qu'on pourrait qualifier de virils. Il leur faut une certaine force pour soulever les corps. C'est Christelle Avril qui parle de styles de féminité différents. Et parmi ces styles de féminité, d'une virilité féminine, elle en parle à propos de l'usage d'une voix forte pour avoir de l'autorité sur les personnes soignées. Et donc, une certaine revendication à ce que Christelle appelle une virilité féminine. Et puis, autre volet de la respectabilité, et là, il y a des chapitres tout à fait intéressants, mais je vais être obligée de passer sur cet aspect-là, sur la définition de la sexualité pertinente et valorisable pour les femmes des classes populaires. Skeggs dit que la féminité est une manifestation publique qui dépend de sa validation par le regard des autres. Et elle donne un exemple que je trouve tout à fait intéressant. À un moment, ces enquêtés ont des pratiques quasiment de carnaval où elles renversent le stigmate en mettant en scène le lesbianisme, mais dans des moments très, très courts où elles sortent entre copines, ce qui d'ailleurs leur permet d'avoir des moments et des espaces à elles. Mais en fait, cette pratique de carnaval, en fait, conforte l'hétérosexualité à contrario. Alors, dans l'interview que nous avons réalisée avec Beverly Skeggs et dans d'autres articles, je vais conclure là-dessus, Skeggs dit que son véritable objet, c'est la valeur et la valeur de la personne, telle qu'elle est mise en jeu dans des rapports de classe. Alors, je vous l'avez compris, la définition des classes de Beverly Skeggs inclut totalement la lutte des classes, ce qui n'est pas toujours au cœur des définitions des classes, telles qu'on en a parlé, mais pour elle, c'est tout à fait vraiment moteur, puisque moteur de sa recherche, puisqu'en fait les luttes de classement sont des luttes de classe, ça c'est pas elle est pas seule à le dire, mais elle montre comment il y a effectivement au sein alors d'une même catégorie de sexe des luttes de classement. Elle a une perspective que je trouve intéressante, qui, même si c'est pas très développé, mais dont je vais conclure là-dessus, c'est qu'elle veut associer à ce qu'on pourrait définir comme une valeur d'échange, la valeur personnelle échangeable sur, par exemple, le marché de l'emploi. Elle y ajoute une réflexion que je trouve assez originale sur la valeur d'usage de la valeur personnelle. Et elle dit, quand on n'a plus grand chose, quand on est dominé, on peut faire usage d'une définition de sa propre valeur ou de la valeur des autres pour exister ici et maintenant par rapport à son propre groupe. Donc c'est une espèce de façon de dynamiser la réflexion sur la valeur, mais aussi d'ouvrir une voie nouvelle. Pour faire avec, en fait, pour montrer qu'on peut faire avec sa valeur personnelle, une valeur qui ne trouverait guère à s'échanger sur les marchés matrimoniaux ou de l'emploi. Un mot encore, et ce sera vraiment le dernier, parce que il y a une suite de ces recherches sur la valeur, puisque c'est donc tout le programme de Beverly Skeggs est construit sur cette notion de la valeur personnelle. Elle a fait des recherches tout à fait importantes, je crois, sur la fabrication et la réception de la télé-réalité. Et elle montre, alors vous connaissez peut-être, mais moi ça m'a vraiment ouvert des horizons, elle montre comment la télé-réalité est le moyen actuel des classes dominantes de définir la valeur des personnes, des membres des classes populaires, et notamment les femmes. Comment être des bons parents, des parents responsables, on retrouve la responsabilité, donc qui doivent être éduqués. Alors en France, ça s'appelle le grand frère ou la super nanny. Hein. Comment être de bons couples, des bonnes ménagères, et toujours à travers une grille de critères qui sont ceux de la classe supérieure des classes supérieures et de la bourgeoisie. Donc, elle conclut que l'ancienne pathologisation des classes dangereuses trouve là une nouvelle façon de s'exprimer et de modeler les distinctions entre classes. Et elle parle d'une économie émotionnelle de la classe, une économie qui repose sur la honte, la dévalorisation ou au contraire l'estime de soi. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. Là, c'est mon quart d'heure promotionnel. J'ai évidemment été très 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 rapide, mais je souligne, c'est pour celles et ceux qui s'intéressent à l'analyse des classes sociales et en termes de lutte des classes, mais pas seulement des classements, hein, de la production des catégories. Il y a, je trouve, dans cet ouvrage des pistes tout à fait originales et qui dépassent largement le cas des classes populaires britanniques.
carbone 14, certifié authentique. Mon vin sur cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie.
Voilà, donc on vient de s'écouter une présentation du livre de Beverly Cakes, Des femmes respectables, classe et genre en milieu populaire, paru en 2015, donc en janvier 2015 chez l'éditeur marseillais Agone, et qui est la traduction d'un livre plus ancien qui était paru en 1997. Donc livre de cette sociologue anglaise et féministe, présentée là par Anne-Marie Devreux, qui est elle-même sociologue. Donc quelque chose que sur lequel ne s'arrête pas Anne-Marie Devreux dans sa présentation de ce livre, et qui me semble important pour en tout cas de ce que j'ai vu en allant voir un peu chercher des informations sur ce livre, c'est que en fait elle analyse aussi Beverly Cakes, on va dire les freins, les obstacles à la diffusion d'un féminisme transclasse. Et donc elle montre à travers son enquête, donc pour rappeler, hein, menée auprès de 80 jeunes ouvrières anglaises qui s'orientaient vers les métiers du care, comment le mouvement féministe est assimilé souvent par elle à une forme d'autoritarisme moral ou une contrainte éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Et là, le propos, c'est pas de dire qu'elles ont raison, hein, pas du tout, mais c'est de, voilà, avec ce livre, on a un détour. Là, je cite en fait quelque chose que j'ai trouvé sur internet, sur le site www.contretemps.eu, un détour compréhensif essentiel si l'on souhaite dénouer les rapports de domination patriarcaux. C'est-à-dire que ça permet aussi de voir comment le féminisme est perçu par les femmes, ou en tout cas certaines femmes des classes populaires, quels sont les obstacles à une réception positive du féminisme, pourquoi le féminisme est souvent vu comme quelque chose de bourgeois qui ne concerne pas, etc. Et donc sur ce site, hein, www.contretemps.eu, on peut trouver des extraits du livre qui traitent un peu, voilà, qui permettent de voir un peu comment sont perçus le féminisme par ces femmes-là. J'en lis très rapidement un tout petit extrait, moi, que j'ai coupé à la fin. En gros, après plusieurs entretiens de femmes interrogées, là, Beverly Cakes écrit: c'est par solidarité avec les hommes de leur classe sociale qu'elles associent le féminisme aux classes supérieures. Les représentations du pouvoir d'oppression de la patriarchie et de la puissance des hommes ne font pas écho à leurs expériences, bien que leur solidarité puisse découler autant de leur dépendance et de l'inégalité que de l'empathie et de la pitié. Leur représentation n'offre pas de perspective de dialogue, comme pour Angela, Jane McDee et Mary, donc ça c'est trois des personnes interrogées. Le féminisme est pour une autre sorte de femme à laquelle elle ne s'identifie pas. Et Beverly Cakes ajoute: le féminisme cependant peut parler aux femmes des classes populaires à condition qu'il leur livre un cadre d'interprétation de leurs expériences. La restitution de cette expérience emprunte souvent au récit héroïque et au schéma de la révélation ou de la conversion. Le féminisme devient le facteur explicatif de l'ensemble de leurs expériences. C'est à travers des événements comme la violence conjugale ou le viol que s'établissent des connexions et que le féminisme parvient à s'adresser à ces femmes au-delà des différences. Bien qu'elles ne se reconnaissent pas ou ne s'identifient pas comme féministes, elles livrent aussi de nombreux combats que l'on pourrait qualifier de féministes, sur l'usage de l'espace, la construction d'endroits où les enfants puissent jouer en toute sécurité, en se mobilisant pour garder ouverte une crèche ou en protestant face aux comportements sexistes. La plupart d'entre elles sont ulcérées par les représentations négatives des femmes dans les médias. Elles manifestent beaucoup de colère face aux comportements exigés sur la seule base du sexe. Cette colère persiste au fil du temps, même si les sujets se modifient. Plus jeunes, ce sont les attentes inégales concernant les tâches ménagères, l'éducation et l'apparence qui les mettent en colère. Plus tard, ce sont celles qui concernent l'éducation des enfants, la maternité et le marché du travail. Les études sur lesquelles repose la théorie féministe doivent s'interroger sur ce que désigne le sujet de femme au cœur de leur connaissance. Il faut redonner un sens au concept. Cette reconnaissance est cruciale pour permettre l'action. Le féminisme doit prendre en compte le contexte et l'accès différencié des femmes aux différentes formes de capitaux et de savoir. Il doit documenter l'histoire, les réalités économiques, les positions sociales, les représentations culturelles, le discours populaire et les investissements culturels. En second lieu, nous devons nous intéresser à la façon dont des ponts peuvent s'établir entre différents groupes de femmes. Les cadres interprétatifs sont-ils accessibles ? Il se peut qu'il faille s'investir dans d'autres luttes qui, comme la grève des mineurs en 84, donc on a fait une émission là-dessus, j'y renvoie, ne font pas référence aux femmes mais établissent des liens avec elles. L'accès au féminisme est un enjeu décisif. On peut se demander où il se trouve avant de faire comme s'il existait. Troisièmement, il nous faut peut-être faire preuve d'une plus grande circonspection à l'égard du féminisme populaire. Donc là, faudrait replacer, parce que populaire en anglais, ça veut pas forcément dire ce qu'on entend nous par populaire. Je crois que ça fait référence surtout ici à des films avec Madonna ou des trucs comme ça, voilà. Donc comment replacer ces modes de compréhension individualiste dans ceux qui intègrent le social et l'économique? Et quelle expression publique donner à ces derniers? L'argument vaut pour un grand nombre de textes théoriques féministes qui semblent sans arrimage, sans lieu. Moi, j'en pense rien de tout ça. Hein. Je lis pour situer un peu la pensée de cet auteur. Mais comment utiliser également les avancées permises par le féminisme populaire? Le féminisme doit continuer à nommer et à procurer des cadres d'interprétation pour les injustices quotidiennes d'une façon intéressante et attractive qui puisse embrasser des formes fragmentaires d'action féministe au lieu de viser la pureté féministe en évitant les formes totalisantes et impérialistes de nomination selon l'expression de Haraway. Les classifications négatives supplémentaires sont bien la dernière chose dont les femmes des classes populaires ont besoin. La sensibilité à ces questions pourrait inciter à mettre en sourdine la pureté au profit de campagnes plus constructives qui prennent au sérieux les différences et les inégalités existantes entre les femmes, qui doivent être prises en compte au lieu d'être simplement supposées. Voilà, donc moi, je me suis dit, tiens, il faut faire un petit truc autour, une petite émission autour de ce livre, même si je ne l'avais pas lu, c'est que voilà, je trouve que ces manières de croiser en général rapports de classe et rapports de genre sont assez rares et elles sont importantes pour dénouer des fois des oppositions et des fausses oppositions. Voilà, et donc ce livre, je pense, doit participer un peu de ce genre de réflexion. Voilà, bon, il nous reste 1 minute, eh bien on va terminer en musique avec eh bien tout de suite Fermin Muguruza et la chanson que j'avais déjà dû passer dans cette émission mais que j'aime beaucoup, donc je m'en lasse pas, la reprise du titre Freedom. Et c'est en live, c'est Radio Canus, c'est l'émission Angle Mort.
You're too much. toujours. Comme disait Guillaume le taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors essayez, essayez, essayez.
Allez, c'est fini pour Angle Mort, on laisse la place aux copains de la, et copines de la causerie et on se retrouve quand on se retrouve, hein. Un petit tour de bande 24-24 avant le début de leur émission. Là c'était à l'instant Easpa Meaza avec le titre Dead Inside.
Bravo.
Salut, je l'ai retrouvé.
My baby dead, sorry.